Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Et oui, c'est parti pour la deuxième tranche de l'émission Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Eh bien, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des zones humides de la République démocratique du Congo. Comment les protéger? Eh bien, les zones humides riches en biodiversité font souvent l'objet des spoliations. À Kinshasa, par exemple, les zones humides du Poule Malébo sont sérieusement menacées d'occupation illicite par des particuliers qui construisent des maisons au vu et au su de tous. Alors, quelles sont les conséquences liées à l'occupation anarchique des zones humides? Que faire pour les protéger? Eh bien, notre entretien avec les invités va tourner autour de cette question. Nous avons en ligne Monsieur François Kaluele, promoteur du Centre des recherches, d'études et des préventions des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. François Kaluele, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également en ligne le professeur Corneille Ewanga, écologiste. Bonjour, professeur.
Bonjour, merci bien. C'est Corneille Ewango. Merci bien.
Bien, Corneille Ewango. Bienvenue, professeur. Je commence avec vous, Monsieur François Kaluele. Qu'est-ce qu'on entend par zone humide?
Ben, la zone humide, je préfère commencer par préciser un élément. C'est que je suis maître de conférences au Centre international de recherche, effectivement, sur les changements, la prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. Nous avons le principe de parler en des termes très simples. La zone humide, ce sont des zones de réserve d'eau qui stagnent, qu'on peut appeler aussi en d'autres termes de marécage, qui permet à ce que la nature, de façon normale, puisse conserver une température qui n'est pas très élevée dans la zone qu'on considérait. Et de l'autre côté, c'est une zone qui reçoit les activités de maraîchage, par exemple, pour une alimentation rapide, parce que ce sont des aliments que nous avons sur notre table, mais qui sont produits, cultivés, pour des périodes relativement courtes, qui nécessitent de l'eau en permanence. Et c'est cette zone-là que nous appelons la zone humide, qui a plusieurs avantages pour nous par rapport à la biodiversité, tel que vous l'avez dit.
Eh bien, professeur Corneille Ewango, quelle est l'importance d'une zone humide?
Thomas, l'importance des zones humides, comme vient de le dire mon prédécesseur, c'est en termes de son captage de bilan hydrique. Donc, on nous pourvoit en eau, et ça c'est pour les besoins directs de l'homme. Mais sur le plan écosystémique, il rend services écosystémiques innombrables qui sont utiles à l'homme. Donc, il est un réservoir important de la biodiversité unique, la biodiversité aussi bien végétale qu'animale, et dont en grande partie les poissons. Et ce sont des zones qui sont des zones frayères pour la reproduction des poissons. Ce sont des zones qui sont des zones de reproduction aussi des animaux, entre autres les oiseaux. Et il y a des oiseaux aquatiques qui ne sont spécialisés qu'à ces zones-là. Mais aussi, ces zones jouent un rôle important. Non seulement ils sont les réservoirs d'eau, mais ils jouent aussi un rôle de cumul des stocks de carbone dégradés qui restent enfouis dans le sol de ces zones humides. Donc, ils sont des réservoirs et une réponse au changement climatique. Et entre autres, ces zones humides contiennent dans certains endroits, les tourbières. Et tout le monde sait maintenant l'importance des tourbières dans cette période de changement climatique, qu'ils sont comme un réservoir de tous ces gaz nocifs qui contribuent à la destruction de l'environnement, de l'atmosphère. Mais eh bien, ces zones-là les congèlent et les gardent afin qu'ils ne puissent pas encore être réémis dans l'atmosphère.
Bien, vous avez dit que ces zones sont des réservoirs de la biodiversité. C'est là où se reproduisent les poissons. Comment ça se passe concrètement, professeur?
Merci bien. Comme vous le savez, chaque être vivant a trois choses. Avoir un habitat favorable pour sa reproduction et pour son maintien. Et cet habitat doit lui pourvoir aussi en tout élément nécessaire pour sa nutrition. Donc, ces zones, il y a certaines espèces, donc comme je l'ai dit, les poissons, certains oiseaux et même certains animaux aquatiques qui ne peuvent se reproduire que dans ces zones humides-là. Un poisson ne peut pas se reproduire sur terre ferme. Donc, les poissons, pour se reproduire, ils ont besoin de ces zones où ils vont nider, construire leur nid pendant la période de reproduction et faire grandir leur alevins. Et c'est comme ça que l'on peut voir, tout Congolais peut voir que dans ces zones humides, les peuples sont pêcheurs. Ce sont des peuples riverains qui vivent que de la pêche, qu'ils ont pratiqué des millions d'années. C'est parce que le capital des poissons se renouvelle chaque année grâce à ces zones-là. Et les oiseaux aussi se reproduisent dans toutes ces zones-là. Et il y a certains animaux, par exemple, le plus communément appelé à Kinshasa, le kéfé. Mais il ne peut se reproduire que dans cette zone humide, pas ailleurs. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme les maternités, une maternité de chaque espèce qui vit dans les zones humides. Voilà en termes simples.
Bien, Monsieur François Kalwele, on parle de ces zones humides sont des endroits, des maternités où se reproduisent les poissons. On dit par exemple qu'à Kinshasa, là où on a érigé aujourd'hui la cité du fleuve, c'était pratiquement une zone d'effrayeur qui est aujourd'hui occupée par des immeubles.
Le problème que nous avons dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un problème de communication. Nous parlons en termes de zones humides. Au passage, je remercie le professeur qui vient d'expliquer par rapport aux réserves naturelles pour permettre à ce qui est procréation au niveau des espèces aquatiques. Prenons la rivière Ngili. Il y a des zones qui ont été décrétées des zones inondables. Ce sont des zones qui constituent des réserves en eau pour tout ce qui peut être reproduit, sans pour autant subir la pression du courant d'eau quand l'eau passe. C'est important que nous puissions avoir ces zones-là pour permettre à ce que notre ville de Kinshasa, pour ne parler que de la ville de Kinshasa, ait les éléments nécessaires dans l'écosystème par rapport à la température, ne fût-ce que la température de l'homme qui vit aux environs de ces zones-là. Il y a maintenant la dimension de la lutte contre le changement climatique. Vous allez constater que là où on construit les immeubles, vous avez parlé de la cité du fleuve. La cité du fleuve, je le dirais, c'est une question scientifique, et je ne suis pas politique pour ça, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui a été fait? La zone humide qui était le réservoir, comme l'a si bien dit le professeur, a vu sortir du lit du fleuve, le sable, pour venir tout engloutir. Et toute la population qui s'en servait comme lieu d'unité de production des aliments, de maraîchage pour nous, y compris les espèces aquatiques, nous en subissons aujourd'hui. Et quand il y a les inondations au niveau du fleuve, il y a surabondance d'eau. Et c'est surabondance d'eau quand l'eau revient dans son lit, ramène plusieurs éléments parmi lesquels nous avons le poisson. Et ces poissons qui ont reproduit dans le milieu humide, le bon Dieu, je le dis comme ça, la nature a fait qu'ils puissent s'abriter à ces endroits qui seront à l'inondation, bien conservés pour leur permettre de laisser passer le temps. Maintenant,
Monsieur François,
de le remplacer,
oui.
C'est la catastrophe.
Est-ce qu'on a une cartographie de toutes ces zones humides, par exemple, de Kinshasa?
L'Institut congolais, l'Institut congolais géographique a toutes les cartes des zones non seulement humides et des zones inondables. Il y a aussi des quartiers où la végétation se prête à recevoir des eaux de pluie et qui créent des conditions de reproduction de la végétation. Parce qu'il y a ce que nous appelons les herbes folles. Les herbes folles, même après la saison sèche, vous allez voir que la première pluie va amener les eaux de ruissellement. Et ce n'est pas toutes ces eaux qui vont descendre directement au niveau du fleuve par les rivières. Il y a des eaux qui arrivent à des endroits qui, pendant la saison sèche, on voit qu'il n'y a pas de végétation. Et pendant la saison de pluie, c'est cette végétation qui vient aussi contribuer à la lutte contre le changement climatique par le captage de CO2. Et quand on vient construire, parce que c'est la saison sèche dans ces endroits-là, pendant la saison de pluie, il y a les inondations et il y a justement tout ce que nous déplorons par rapport à la dégradation de conditions de vie liées au changement climatique.
Bien, nous allons accueillir un auditeur, Daniel Lungembo. Il nous appelle de Kisangani. Bonjour Daniel.
Bonjour monsieur et à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Bon, le problème, c'est de savoir si ces agents occupent ces terrains de manière légale ou illégale. Si c'est légal, il faut que l'État initie une poursuite judiciaire contre les autorités qui vendent ces terrains et aussi faire déguerpir tout le monde qui construit dans ces milliers, mais malgré aussi l'État congolais, il laisse ces espaces perdre sans stratégie. C'est ça la difficulté. Et cependant que les criminels en profitent pour en faire de ces espaces leur champ de bataille. Merci la Radio Cap.
Bien, merci. Professeur Corneille Ewango, votre réaction. Professeur Ewango.
À l'écoute.
Oui, comment votre réaction après cette intervention de Kisangani?
Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Notre interlocuteur, que je remercie beaucoup, il a parfaitement raison. Et comme l'a dit mon co-débatteur, je pense que chaque écosystème, chaque environnement joue un rôle important dans son existence. Il est vrai que nous sommes en ville et nous avons besoin de terrain, mais la thermorégulation de l'écosystème ne peut pas se faire sans que nous ayons ces espaces de cours d'eau. On doit se demander d'abord pourquoi ils sont dans ces endroits et pas ailleurs. Et quand nous développons les villes, il est important que nous puissions préserver ces habitats. Comme l'a dit mon co-débatteur, c'est pour la thermorégulation de la ville, par exemple. Vous voyez, la ville de Kinshasa, même en saison de pluie, très surchauffée. Parce qu'il n'y a pas moyen qu'il soit thermorégulé par tous ces cours d'eau, tous ces espaces marécageux que nous sommes en train de détruire pour les occuper. Et notre interlocuteur peut bien le voir, même ici à Kisangani, tous les marais qui étaient à l'intérieur de la ville sont spoliés, ils sont rachetés, vendus par les services même qui doivent au contraire les protéger. Ici, nous ne sommes pas des politiciens, comme l'a dit mon co-débatteur, mais nous sommes des écologistes et nous devons orienter les gens. Je crois qu'on doit préserver ces habitats pour la thermorégulation de la ville et aussi éviter encore des inondations de la ville. Parce que nous pleurons quand il y a des inondations, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'eau n'a pas de canaux de passage. Et quand il n'a pas de canaux de passage, il nous envahit, alors ne pleurons pas. Mais il est vraiment d'importance que les services de l'aménagement du territoire dans chaque ville et dans le pays puissent bien contribuer à préserver ces espaces quand ils sont en train de penser à un lotissement ou à un aménagement de la ville. Ces espaces devraient être protégés davantage pour jouer leur rôle de service écosystémique dont ils sont censés jouer pour la ville et pour les humains et pour les autres êtres vivants. Quand on est en Europe, en Amérique, on voit que tous ces espaces sont préservés, on les appelle des meadows. Mais ils sont des espaces où on vient faire le tourisme des oiseaux migrateurs et des poissons et ainsi de suite. Nous pensons qu'ils devraient être aussi pour nous. Donc, merci à notre interlocuteur qui comprend réellement et qui fait cette apologie que l'on puisse préserver ces zones car elles sont importantes et il y a
pas mal de l'eau, des endroits où on peut habiter, quoi.
Mmh. Professeur Corneille, vous intervenez depuis la ville de Kisangani. Là-bas, dans la province de la Tchopo, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi plusieurs zones humides à protéger?
Oui, il y a beaucoup de zones humides qu'il faut protéger, non seulement des zones humides éparpillées, mais même à l'intérieur de la ville. Il y a eu beaucoup d'espaces marécageux qui sont envahis, soit pour des étangs piscicoles. Bon, là, ils gardent encore un peu leur rôle. Et il y a eu beaucoup de zones où on a asséché, où on a vu, comme l'a dit l'interlocuteur, où on voit des immeubles pilulés, mais la conséquence sera fâcheuse quand il y aura de fortes inondations. Et il y a pas mal de zones humides qui sont le long des cours d'eau et le long même du fleuve Congo, et dont nous avons même des zones que nous avons identifiées, cartographiées comme des zones de tourbières, et nous pensons qu'on devra les protéger pour qu'ils servent à jouer leur rôle et service écosystémique.
Bien. Monsieur François Kalouel, il y a un problème. Les gens sont à la recherche des terrains, les gens veulent construire leur maison. Bon, ils se retrouvent dans ces zones-là parce que les services de l'État leur donnent des documents. Et là, ça devient un problème.
Le problème que nous avons, c'est par rapport à l'interdépendance de services qui octroient les autorisations de bâtir. Pourquoi? Parce que le titre foncier, avant d'accorder le certificat, doit consulter l'Institut géographique pour savoir si cet endroit-là n'est pas l'endroit réservé à être protégé. Donc, dans d'autres termes, on parle d'espace vert. Ça n'existe plus dans la ville de Kinshasa. Et malheureusement, vous allez voir les immeubles sur avenue Kasavubu, à Bandal, je ne veux pas citer, vous allez voir la station à côté. C'était le maraîchage à l'époque. Je me rappelle qu'il y avait un ministre à l'époque du Zaïre qui avait tenté de vendre cet espace et l'État a refusé qu'on puisse lotir cet espace à Bandal parce que c'était réservé à la zone. C'est une zone humide, comme nous le disons. C'était réservé à ce qu'on puisse réguler, comme l'a si bien dit le professeur tout à l'heure, la température dans notre ville. Alors, quand on ne sait pas lotir, parce que l'État qui devrait en principe lotir et respecter ses normes, consulter ses services, les titres immobiliers devraient travailler avec les services de l'urbanisme et tous aller s'appuyer sur la cartographie qui a été travaillée au niveau de notre institut géographique pour savoir si cette zone peut être lotie. Mais aujourd'hui, n'importe qui arrive et de fois, il y a des morcellements qui ne respectent pas les normes. Et les gens qui s'accaparent des terrains, et ils construisent et après, ils vont solliciter les autorisations pour obtenir le titre immobilier. Avant de pouvoir accorder ce titre, l'État devrait en principe s'assurer que ce qui a été fait dans une zone qui n'est pas une zone humide.
Professeur, oui.
Le problème est au niveau de notre autorité, donc de l'État, de pouvoir organiser et encadrer ce genre de comportement.
Monsieur François, un auditeur nous fait signe par exemple qu'à Kinshasa, le site rizicole dénommé Nchwenge vert Massina est pratiquement en voie de disparition. C'était une zone humide où les gens cultivaient le riz, mais aujourd'hui c'est des maisons. Les maisons ont envahi ces sites.
Nous avons Nchwenge, nous avons Njili Brasserie, pour ne citer que ça, sans parler de Kinsuka de l'autre côté. Le problème, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est l'autorité qui doit prendre le courage d'anticiper, je dis avant d'accorder l'autorisation de bâtir, que l'État puisse s'assurer que c'est une zone qui est protégée, parce que les zones humides sont protégées dans notre pays. Et si l'arrivée que la personne a déjà construite, avant d'accorder le titre immobilier, que l'État puisse faire des remontances à la personne qui a construit de façon illégale et tirer des conséquences. sur le plan des droits, donc de loger la personne, voilà. C'est pas normal que nous puissions aujourd'hui parler dans le sens de sa disparition. Parce qu'il faut voir la géographie au niveau de Massina, Kingasani et Kimbansé qui est là-bas. Nous dépendons de cet espace-là pour permettre à ce que l'Endunda, l'édite Kutekou, pour parler en citant les noms, soit accessible à l'endroit où il n'y a pas la pollution des véhicules qui passent à côté. Mais quand on va construire dans ces endroits où nous avons des produits bio pour notre population, et l'État qui reste sans pour autant voir comment les amis tirent la sonnette d'alarme, je crois qu'il y a un problème.
Bien, on va accueillir Fariel Malassa au Capi Service. Nous parlons de la protection des zones humides de la RDC, des questions et préoccupations. Composez le 081 890 63 94.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Comment protéger les zones humides de la République démocratique du Congo? Fariel Malassa, vous êtes à Ilebo. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joudi, et bonjour à l'invité de la radio Capi Service.
Bienvenue, Fariel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, monsieur Joudi, moi, je dirais, c'est un problème de l'incompétence généralisée dans les chefs des autorités. Car les zones humides nous fournissent de l'oxygène. Et quand ces milliers sont occupés avec la construction des maisons, nous avons plusieurs conséquences, notamment les têtes d'érosion et l'écroulement des maisons, et mort d'hommes même. Moi, j'ai vécu cette situation à Kananga, où les gens vous construisent jusqu'à la rivière. Et lorsque les érosions commencent à menacer, ils crient au gouvernement pour l'intervention. C'est ainsi, je me demande à qui la faute? À qui la faute? Parce que les gouvernants doivent utiliser la politique de la prospective pour voir comment les dangers peuvent surgir et embrouiller aussi l'environnement. C'est pourquoi je demande aux autorités vraiment d'utiliser cette politique de la prospective pour éviter les conséquences qui menacent les milliers humides pour construire jusqu'à la rivière. Voilà mon intervention, mais c'est jeudi.
Bien, merci Fariel. Vincent Darabou, au Maniema, nous dit ceci. Vu la grande superficie de la ville de Kinshasa, par exemple, il est pratiquement impossible de laisser ces espaces vides. Pour la meilleure image de la ville, les autorités doivent tenir compte de la possibilité de chaque citoyen occupant en imposant une construction moderne et un matériau durable au lieu de donner les terrains à n'importe qui. Je m'oppose totalement à ceux qui disent que la population occupe ces endroits illicitement, de manière illicite, sans que les autorités ne soient au courant. Professeur Corneille Ewango, votre réaction.
Merci, monsieur Jody. Je suis totalement d'accord avec cet intervenant. Je crois qu'il est du devoir de l'autorité de pouvoir légiférer. Donc, il n'est pas bon qu'on laisse proliférer des maisons dans des endroits qui sont totalement protégés. Les zones humides, comme l'a dit mon co-débatteur, ce sont des zones totalement protégées par la loi. Et il y a plusieurs terres vacantes en dehors de ces zones. Ceux qui construisent, ceux qui sollicitent, ceux qui livrent, lotissent dans ces endroits doivent savoir que les maisons érigées dans ces endroits, dans ces zones humides, servent le plus son propriétaire, mais les services environnementaux produits par ces zones, c'est à l'avantage de milliers de personnes, de toute la ville en dépend. Donc on ne doit pas séquestrer les gens juste pour la boulimie de ceux qui s'appellent, que moi j'appelle les nouveaux riches, qui cherchent des terres et ne restent cantonnés que dans la ville pendant qu'il y a encore des espaces à lotir. Vraiment, nous faisons appel à l'autorité, aux services compétents, de pouvoir cartographier d'abord ces zones à travers toutes les grandes villes du pays pour qu'ils puissent jouir de leur protection. Ce sont des zones de protection, ce sont des zones de protection à l'intérieur même de la ville. Donc, au lieu de les polluer, au lieu de les abîmer, en tout cas, on devra par contre les protéger à tout prix. Donc,
le service qu'ils rendent, c'est plus important à plus d'une personne que de servir l'intérêt d'une seule personne.
Professeur, vous avez dit aussi que ces zones sont des réservoirs d'eau. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Et comme l'a dit à l'introduction même de cette émission, mon co-débatteur, donc ce sont des zones qui sont garnies d'eau en permanence, même pendant les saisons sèches. On peut marcher comme si on voit que c'est tari, mais à quelques centimètres dans le sous-sol, quand vous creusez, vous allez voir qu'il y a de l'eau. Donc, ce sont des zones qui se développent et qui maintiennent l'eau en son sous-sol. Alors, et ils jouent le rôle de thermorégulation, donc de réguler la température, mais aussi d'approvisionner les cours d'eau en eau pendant les périodes sèches. Vous allez voir que les régions où il y a beaucoup de ces sites marécageuses, les rivières ne connaissent pas un tarissement important car ils gardent de l'eau en eux dans les sous-sols. Et ils sont, à ce sens-là, les thermorégulateurs et les pourvoyeurs hydriques des grands cours d'eau dans le milieu. Et ils servent aussi à l'épuration des eaux, surtout dans les zones où les gens ne dépendent pas des eaux de la régie des eaux, mais de l'eau naturelle. Ces zones-là sont les épurateurs, les purificateurs des eaux dans le milieu qui sont les plus reculés, et même à l'échelle des écosystèmes urbains.
Oui. On dit aussi que ces tourbières s'y jouent aussi un grand rôle par rapport au réchauffement climatique. Professeur, pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Merci beaucoup. On a tant parlé des tourbières qu'ils sont une solution à cette période de changement climatique, car la tourbe, c'est quoi? C'est cette masse de la boue qui contient, qui sont dans les zones humides et qui contient d'énormes quantités de carbone. Le carbone, c'est la substance nocive qui est en train de brûler l'ozone qui est dans l'atmosphère. Alors, ces zones-là, quand les plantes mères, les organismes mères, quand ils se décomposent, au lieu que ces substances puissent être émises, donc rejetées dans l'atmosphère, ils sont gardés. Ils sont enfouis dans le sol. C'est comme vous prenez de la saleté, vous creusez un puits, et au lieu que ça reste comme immondice et en train de polluer l'atmosphère, vous l'avez enfoui, vous l'avez enterré. Donc, ces tourbières sont comme du carbone, des gaz nocifs, des gaz méthane, du soufre, des dioxydes d'azote et des nitrates d'azote qui sont enfouis dans le sol. Une fois que nous sommes en train de les dessécher pour construire nos maisons, qu'est-ce que nous faisons? C'est comme si nous sommes en train de déterrer ce que nous avons enfoui pour les libérer dans l'atmosphère. Voilà, c'est le terme. Donc, au lieu de dessécher ces zones humides pour libérer tous les gaz nocifs qui sont en train de causer les déséquilibres des couches d'ozone, il faut qu'ils restent humides afin qu'ils puissent jouer leur rôle de séquestrer, de garder, d'encastrer le carbone, le COD, le dioxyde de soufre, les gaz méthane qui sont en train de brûler la couche d'ozone. Mais si on veut chaque espace, zone marécageuse, dans la ville, dans les grandes agglomérations que nous sommes en train de dessécher, nous sommes en train de contribuer à libérer le dioxyde de carbone qui est en train de réchauffer. C'est comme ça que vous voyez que, en plus d'être des villes dénudées, sans arbres, et où on a desséché les zones humides, le réchauffement de la ville est important, non seulement à cause des habitations, mais à cause de ce qu'on a détruit tous les systèmes thermorégulateurs naturels, donc de l'environnement.
Bien, on va accueillir Tambwe Kasongo depuis Beni. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la radio. Pardon.
Quelle est votre préoccupation, Tambwe?
Oui, ma préoccupation, c'est là, et suite à la négligence de la plupart de la population et à la négligence de certains autres qui connaissent mais le fait de là pour faire du mal à l'État. Les autorités, il faut que les autorités aient la bonne foi et qu'il assure aussi les bons contrôles de ces milieux-là. Je dis, ce qui est inquiétant est que ce sont les autorités qui vendent ces milieux à travers ce secteur de cadastre, et vous verrez que ces personnes-là ont les titres ou bien les certificats d'enregistrement. Ce qu'on peut faire est que chaque autorité puisse faire son travail tel qu'il est dit par, par la loi. Et c'est, lorsqu'on vend ces milieux-là, marécagés, a beaucoup de conséquences sur les êtres humains. Par exemple, il y a l'écroulement des maisons qui décime aussi la population. Voilà toute contribution, M. Jody, et merci de m'avoir sélectionné.
Merci, Tamboué. Ingénieur Albert Kotolo Mbouabizoua nous a écrit depuis le territoire de Makanza, dans la province de l'Équateur. Il dit que le sujet est intéressant et il suggère ce qui suit à l'État congolais d'organiser davantage des ateliers de sensibilisation de la population pour les biens fondés de la diversité, respecter les conventions internationales pour la protection des zones humides ainsi que la protection de la biodiversité et d'appliquer la législation pour éviter les problèmes. Les autorités compétentes doivent garantir la vie de la population du Malebo, à la population du Poule Malebo, d'apprendre à respecter les zones humides et d'utiliser rationnellement ces zones pour permettre la pérennité de la biodiversité. En ce qui concerne les conséquences, dit qu'elles sont nombreuses, il y aura la diminution des zones humides et perte de la biodiversité, etc. L'État doit mettre en place le droit de l'environnement dans notre pays et tous les services environnementaux avec les environnementalistes. Bien, merci. Monsieur François Kalouele, vous là, vous avez suivi la réaction de la question de les réactions des Tamboué de Beni et d'Albert de Makanza. À vous la parole.
Bien, ils ont totalement raison. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure et le professeur a été dans le même sens. Nous devons prendre de la hauteur et prendre le courage de prendre des décisions en toute responsabilité. Pour nous qui sommes dans le secteur de l'environnement, nous devons informer les résultats de nos recherches, les résultats de nos études. Et à l'autorité de prêter oreille. Et il y a aussi nos députés qui sont là pour parler de ce qui préoccupe la population. Il y a des lois aujourd'hui qui sont tombées en désuétude seulement parce qu'on ne les utilise pas. Et pourtant les lois sont là. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait l'inventaire des zones humides restantes pour les protéger. Et les zones humides qui ont déjà été spoliées, que l'État prenne une décision courageuse de pouvoir délocaliser les occupants. Quand on nous dit qu'il n'y a pas assez d'espace, c'est comme ça que la ville tire en longueur, en espace, et on va beaucoup plus loin, y compris sur les zones humides. C'est pas vrai. C'est un problème de politique d'habitat. Quand la France avait constaté que l'intramuros était rempli, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les promoteurs immobiliers qui sont venus, qui avaient cassé l'ancien pour construire en hauteur. Et la politique là-bas, c'est que chacun achète son appartement avec un titre immobilier. Dans notre pays, on n'a pas encore cette culture de dire qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pendant que nous pouvons vivre ensemble. Le système d'appartement pourrait, à une mesure raisonnable, résoudre tant soit peu le problème de l'expansion anarchique de la ville, des villes de notre pays, et à l'occurrence de la ville de Kinshasa. Dès lors qu'on n'arrive pas à avoir dans un même immeuble 4-5 titres immobiliers pour 5 ou 6 propriétaires, le problème demeurera. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pendant que les gens réfléchissent, je crois que les députés pourront aller dans le sens de ce que venait de proposer le professeur, qu'on puisse légiférer pour sécuriser, je dis, ce qui reste encore disponible, et de l'autre côté, aller plus loin pour résoudre le problème dans le fond, afin que cela serve d'exemple pour ceux qui vont encore s'aventurer à de telles criminalités écologiques.
Monsieur François Kalouele, parlons par exemple du parc marin des mangroves à Moanda aujourd'hui. Dans quel état il se trouve? Est-ce que ce parc est suffisamment protégé?
Hélas, rien n'est protégé dans les milieux que nous disons de la protection des eaux stagnantes. Parce que quand on parle
des eaux humides, les gens, des fois, ne comprennent pas beaucoup. C'est l'eau qui ne coule pas, qui est en réserve, qui stagne dans une grande surface, qui permet à ce que l'écosystème se reconstitue, tel que l'avait dit, et je le répète encore avec respect, le professeur tout à l'heure. Mmh. Vous comprenez, nos mangroves, c'est une grande richesse pour nous. Et ça nous protège par rapport à tout ce qui vient de l'océan. Et nous avons la reproduction là-dedans de poissons, mais malheureusement, la pêche qui échappe du côté de notre fleuve pour les poissons d'eau douce, ben on retrouve au niveau de notre espace mitoyen avec l'océan. Vous comprenez? Donc les mangroves ne sont pas protégées, hélas.
Bien. Les mangroves ne sont pas du tout protégées. Nous avons également la zone humide d'Ngiri Tumba Maindombe, qui est d'ailleurs parmi la plus grande du pays, ou je sais pas moi, d'Afrique. Est-ce que toutes ces zones, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger toutes ces zones-là? Il y a aussi le bassin de la Loufira, professeur, François Kalulé.
Je crois qu'il y a un problème de tourisme. Parce que des fois, les gens ne réalisent pas l'importance de ce que nous avons acquis par la grâce de l'Éternel notre Dieu dans notre pays. Le ministère du Tourisme devrait en principe organiser le tourisme pour que la population, le commun des mortels, arrive sur ces terrains-là, voit les bienfaits, qui est quelqu'un qui est un guide, qui explique à chacun pour que tout le monde, bon, dire tout le monde, ça veut dire la majorité des Congolais puissent savoir quelles sont les richesses réelles que la nature nous a données, que nous avons le devoir de protéger. Dès lors que nous n'avons pas connaissance de bienfaits de tout ça, je crois que ça pose aussi problème.
Donc c'est l'ignorance qui fait que ces zones soient occupées de cette façon.
En partie, oui. Manque de communication, je l'ai dit au départ, manque de formation pour que les gens puissent encadrer, et aussi les campagnes de sensibilisation, ça n'existe pas dans notre pays, pour que les gens puissent s'approprier de ce problème important pour notre vie de tous les jours. Et quand quelqu'un vient acheter, il y a nos enfants, très souvent, qui nous ramènent un peu à la raison, qui peuvent dire « Non, papa, maman, là où vous voulez acheter, à l'école où nous avons suivi à la télévision, la radio au Capi, que je félicite parce que c'est partout que nous captons ça, que c'est pas bon d'acheter le terrain à tel endroit. Vous comprenez?
Et d'ailleurs, il semble que lorsqu'on construit dans des zones comme ça, il y a souvent des problèmes de montée des eaux et des maladies.
Non seulement les montées des eaux, il y a un des intervenants qui a dit tout à l'heure, ce sont les écroulements des maisons et ça cause mort d'homme. Et quand on est dans les milieux marécageux, il y a prolifération des malaria. Pourquoi? Parce que il y a très souvent des moustiques qui remontent. Vous voyez un tout petit peu. Et la malaria est l'une des causes de mortalité redoutées au monde aujourd'hui.
François Kalulé, on va accueillir Magloire de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, Magloire.
Oui, personnellement, quand j'ai lu le sujet, j'ai dit le sujet est très bien intéressant. C'est-à-dire qu'en voyant, c'est une chose qui se remarque partout. Et maintenant, cette situation est due surtout au climat qui est favorable. Vous trouverez que partout au monde, même quand nous allons même ailleurs, comme au Brésil, vous allez trouver que la plupart, quand il y a un climat favorable, la population aime se concentrer. Et c'est là qu'il y a un climat favorable. Vous allez remarquer ici même en RDC, quand vous allez dans des zones de montagne à l'est de la République, c'est la partie la plus peuplée de la RDC. Et cela est dû à quoi? À un climat favorable qui attire la population et la survie est favorable, la survie de l'homme est favorable. Et comme la population est attirée par ce climat, il y aura toujours concentration de la population. Mais ce qui donne naissance à cela, c'est l'exode rural. Il y a une pression démographique Dans l'exode rural, la population est attirée et quand la population, il y a exode rural, la population aura toujours tendance de se concentrer dans, de, dans ces milieux favorables qui leur attirent où il y a toujours des... On a toujours présence de la biodiversité et la vie favorable. Maintenant, en y arrivant, ça crée cela, il y a surpopulation et quand il y a surpopulation, on aura toujours tendance à habiter ces espaces-là protégés. Et il y aura disparition de ces espaces protégés. Et les conséquences seront multiples. Du fait que vous allez trouver, il y a exploitation illicite des matériaux de construction. Il y aura aussi l'envahissement de ces espaces verts, des espaces verts, ou soit des sites protégés. Et il y aura disparition des espèces fauniques, comme l'a souligné l'invité, et floristique. La pollution de l'esthétique. Il y a aussi la pollution de l'air qui sera observée. Mais il y aura l'absence des paysages naturels de loisirs, des pertes de devises aussi. Il y aura présence des bidonvilles. Et tant qu'il y aura présence des bidonvilles, ça dégrade déjà même l'esthétique de ces milieux. Mais moi, qu'est-ce que j'ai préconisé? Je dirais que les temps puissent faire respecter, les gouvernements puissent faire respecter les plans de lotissement.
D'accord.
Mais aussi,
merci, Magloire.
La réhabilitation, oui.
Merci. On va donner sur Facebook, Bernard Malumba nous a écrit par rapport à ces sujets. Je pense que pour protéger les zones humides, et il serait important d'instruire la population à travers les médias pour que les gens ne puissent pas construire à de tels endroits, car souvent les conséquences sont fâcheuses. Exemple, les inondations qui peuvent causer des pertes en vies humaines. Alors, comme remède à cette problématique, l'État doit prendre ses responsabilités et surtout interdire avec énergie la construction, interdire aux gens de ne pas construire à ces endroits-là. Professeur Corneille, votre réaction? Professeur, vous êtes là? Quelques soucis avec la ligne du professeur. Monsieur François Kalele.
Oui. Ben, nous revenons sur ce que nous avons dit tout à l'heure. L'État doit être respecté. Et quand l'État est respecté, tout revient en ordre. Et quand il y a interdiction, il y a sanction qui doit suivre. Mmh. Et quand il n'y a pas sanction, l'interdiction ne vaut rien du tout. Le pouvoir, c'est la consommation des décisions. Notre compatriote a si bien dit, quand vous allez construire dans des milieux... dans des zones humides, la fondation même de votre maison ne tiendra pas. Vous comprenez? C'est un risque et pour vous directement et une destruction méchante pour la qualité de vie des populations dans le milieu que vous partagez avec les autres. Donc c'est quelque chose de réfléchi qui doit venir pour permettre à ce que l'État, si les textes sont là, on doit les dépoussiérer. Si les textes ne sont pas encore là, que nos députés puissent proposer des lois qui permettront à ce que nous puissions avoir cette force contraignante, primo, d'empêcher à ce que les gens aillent construire dans ces zones-là, secondo, de les punir au cas où ils entravaient la loi.
Bien. Mais Magloire, tout à l'heure, de Lumbashi a parlé aussi de la pression démographique. Il y a tellement une forte pression démographique, les gens ont toujours besoin d'acquérir les espaces pour s'y établir, construire et s'y établir.
La pression démographique, parce que il y a le principe naturel qui dit tout être humain est à la recherche du mieux-être. Nous avons des conditions que nous avons à l'intérieur du pays, nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais quand il y a la démographie, parce qu'il y a exode rural, il faudra qu'il y ait des conditions d'accueil de ces gens-là, parce que quand nous voyons il y a des étrangers d'un pays qui vont dans l'autre, l'État organise l'accueil, la prise en charge et l'intégration même de cette population nouvelle qui arrive à l'endroit B, partant de l'endroit A. Pour notre pays, ce qui serait mieux, c'est de voir dans quelle mesure faire la promotion immobilière des habitats à loyer modéré. Les HLM, comme au niveau de la France, ont monté encore à 18 étages et tout ça, mais il y a d'autres à 4 étages. Réunir sur une même parcelle 5-6 familles, ça vous épargne déjà 4 ou 5 prétentions malsaines d'aller occuper d'espaces qui ne sont pas appropriés ou qui ne sont pas destinés à recevoir des habitations.
Bien. Merci, Monsieur François Kalele-Voula. Je rappelle que vous êtes maître des conférences et promoteur du Centre de recherche, d'études et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. Et vous êtes là, vous intervenez depuis la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Excellente journée.
Merci. Merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup pour la qualité de l'intervention du professeur. Malheureusement, il est parti.
Ben, il est de nouveau en ligne, on va conclure avec lui.
Qui ont été avec nous.
D'accord.
Et pour ça, je réalise que notre pays renforce plusieurs richesses, parmi lesquelles la matière grise.
Et merci beaucoup. Professeur Corneille, vous êtes de nouveau en ligne, on va conclure aussi avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour protéger les zones humides qui nous restent et surtout informer aussi la population par rapport à leur importance?
Merci bien, monsieur Jody. Ce que je peux dire, j'en appelle aux législateurs du respect de ces zones. Ces zones sont totalement protégées et on devra, avant de procéder à des lotissements, le cadastre de l'État sert juste de lotir l'espace de l'État. Mais il y a le service de l'aménagement. Donc, on ne peut pas allouer un espace sans que l'aménagement ne puisse le garantir à cet usage-là. Et j'espère qu'ils doivent travailler en collaboration. Mais aussi pour ces cas concrets des zones humides, nous avons des services du ministère de l'Environnement dans chaque grande ville. Donc, avant de lotir, on devra faire appel à l'expertise aussi du ministère de l'Environnement, comme l'a dit mon collègue de Goma, que ce sont des zones de tourisme. Donc, on devra les garder pour qu'ils puissent jouer, comme je l'ai dit, leur rôle écologique, des services environnementaux. Nous devons procéder, c'est peut-être aussi notre erreur, nous les scientifiques, les environnementalistes, nous devons continuer la campagne de sensibilisation pour le respect de ces zones-là. Donc, la première chose, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution que de les protéger. Donc, dans les milieux urbains, on doit les cartographier pour les classer comme des zones de protection. Et dans les milieux qui sont les plus éloignés, ces zones, nous voyons comment ils servent pour les services environnementaux. Tous les poissons que nous mangeons viennent de ces zones en plus des rivières. Donc, ils doivent être protégés, cartographiés. Vous avez parlé avant que je ne sois déconnecté du parc des mangroves, du parc des marins et l'espace de Ngiri. Ce sont des zones de plus grande importance que les services ont voulu les détruire. Aujourd'hui, les grandes tourbières qui font parler du Congo sont dans ces zones-là, dans le triangle de l'Ngiri. Donc, ils desservent bien une protection intégrale, sans faille, pour qu'ils puissent jouer le rôle en faveur de toute l'humanité et en faveur de tout le peuple congolais. Si nous avons de l'eau en abondance dans les rivières, c'est à cause de ces zones-là. Si nous avons de l'eau en abondance dans le fleuve Congo et nous jouissons des poissons, c'est à cause de ces zones-là qui doivent être protégées. Donc nous appelons au bon sens de nos autorités de pouvoir cartographier ces zones dans le milieu urbain et de les protéger et de laisser voir ériger des immeubles de n'importe quelle importance. Ces zones ne sont pas destinés à recevoir des immeubles et de jouer leur rôle écologique. Et à tout citoyen congolais qui se plaît de construire dans de telles zones, le jour que la catastrophe viendra, il sera le premier à être affecté, affligé, et ça ne sera pas le rôle de quelqu'un d'autre que de lui-même de voir qu'il y a des espaces, beaucoup d'espaces, qu'il y a que de se confiner, d'aller de s'hasarder dans ces zones-là.
Dans ces zones-là, oui.
Pour que nous les protégions.
Oui.
C'est la campagne de tout le monde. C'est le bon sens de tout être humain.
Merci, professeur Corneille Ouango, depuis écologiste. Je rappelle que vous intervenez depuis Kisangani. Merci et excellente journée.
Merci bien. Je vous remercie, Radio Okapi.
Seyadua kozona zolo sala legetelo Seyadunga kozona zolo lengbeti ungondatelo Lolo dundun dengen bembe yendo undo Lolo dundun dengen bembe salando no
kozona zolo sala legetelo. Say I don't got kozona zolo lengbeti yungonda telo. Lolo dun dun dengen bembe yendo umdo. Lolo dun dun dengen bembe sarando no. Tamo dabe mumma binalandango legetembe. Na kom yo tiga. Et même si tu pars, je reprendrai ma route. J'en veux pas, mais j'ai pas peur d'essayer. Il me collera juste un peu de larmes pour ton départ. Oh non.
En vrai, je te parle de tout. Même quand je te parle de toi, en vrai, je te parle de nous. Même quand je me cache, en vrai, je te l'avoue. Quand je te dis au revoir, en vrai, je deviens fou. Tu m'as rendu riche, moi qui étais tellement pauvre. Enrichi de ton rire et enrichi par ta peau. Les femmes pleurent au départ, elles sont juste moins lâches. Les hommes pleurent aussi, mais c'est juste qu'ils se cachent. C'est comme ça, jour de départ, ce qui nous sépare. Jusqu'au bout, c'est l'amour qui le répare. Près de ton cœur, de la chaleur de ton pagne. Mon amour m'accompagne, ton souvenir m'accompagne.
Biani a parlé d'azoumé també l'engbé tsengangoma. Bima bolé bembe, watambé wa bembe ma. Mogwe, bingbangwa watambingba nangoule ma. Doutambi et nanmo, adoudon zoni.
On est ensemble et déjà tu me mens.
Fidèles auditeurs, eh bien, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission au Kapi Service. Merci de nous avoir suivis. Polydor Basunga était à la mise en œuvre. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation. Au micro, jeudi, Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.